Les acteurs de la Pierre Papier. Une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Pierre-Antoine Burgala. Pierre-Antoine, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors je rappelle, vous êtes directeur général d'Iroco, un gestionnaire d'actifs immobiliers lancé en 2020 et qui s'est démarqué sur le marché des SCPI à l'époque par une approche de type fintech et par le choix de lancer un véhicule sans frais d'entrée, IrocoZen, on y reviendra. Mais parlons d'abord de ce marché des SCPI. Depuis plusieurs semaines, les lancements de produits se multiplient. Qu'est-ce que vous pensez de ce foisonnement de création et des objectifs de rendement parfois supérieurs à 8, voire 9% annoncés par certains entrants?
Effectivement, on ne compte pas limite un jour sans qu'il y ait une annonce de lancement des SCPI. Alors moi, contre-intuitivement, on pourrait imaginer que j'y vois là une concurrence. J'y vois au contraire un excellent signal. Le signal que la SCPI, au final, elle a tout son sens dans l'épargne des investisseurs. Ça montre que la SCPI est clairement pas morte, comme pourraient le vouloir certains. Bien au contraire. Donc oui, la SCPI a du sens. Oui, l'immobilier a encore un grand avenir. Et donc, c'est pour ça qu'on voit énormément de lancements de véhicules.
La SCPI a du sens chez le gestionnaire, mais peut-être pas autant chez les épargnants. Revenons sur ces rendements annoncés. Ça vous paraît tenable et surtout sur quelle durée?
Oui. Alors, effectivement, c'est là où la question se pose. Aujourd'hui, si on revient à une analyse purement macro, on est dans un contexte immobilier qui est extrêmement particulier puisqu'on a eu depuis l'été 2022 une hausse de taux absolument énorme qui a eu un impact immédiat sur les prix de l'immobilier. Puisque donc les rendements de l'immobilier sont corrélés à l'actif sans risque. On peut détailler si vous voulez, mais je pense que tout le monde en est conscient désormais. Et donc on se retrouve avec une fenêtre d'investissement où le bras de fer au final entre l'acheteur et le vendeur s'est complètement inversé et l'acheteur a ce pouvoir-là de pouvoir faire l'acquisition d'actifs qui présentent des rendements risques absolument inédits et donc d'embarquer du rendement élevé, de bonne qualité, à très long terme pour sa SCPI, pour ses investisseurs. Donc aujourd'hui, effectivement, une SCPI qui achète de l'immobilier, elle peut promettre des rendements beaucoup plus élevés qu'il y a encore 2 ans. Maintenant que j'ai dit ça, ça serait sans compter le fait que déjà, il y a un petit quelque chose qui se passe sur l'environnement taux et donc les banques centrales commencent à baisser leur taux directeur, ce qui aura un impact à l'inverse sur les prix. Et il y a de plus en plus de compétition. Nous, en tout cas, chez Iroco, on le voit, il y a de plus en plus de compétition à l'achat. C'était un très bon signal là aussi. Ça montre que l'immobilier redevient sexy.
C'est la question que j'allais vous poser, parce que justement, cette reprise qu'on annonce depuis plusieurs mois, elle semble se dessiner. Est-ce que vous la ressentez, justement?
Elle est réelle. Elle est réelle. Effectivement, pendant quasiment un an, on a été seul au monde parce que on a collecté de manière très dynamique chez Iroco et pour la SCPI IrocoZen. J'imagine qu'on en parlera après. En l'absence de concurrence, on a pu constituer une prime de risque extrêmement élevée. C'est-à-dire que quand on a une OAT de 10 ans en France, par exemple, à 3,50 et qu'on achète à 8, voire 8,5% de rendement, acte en main, nos actifs, c'est même limite. C'est fou, c'est une période absolument dingue, hyper propice à l'acquisition. Aujourd'hui, on voit plus de compétition, donc les prix redeviennent plus rationnels. Et en cela, je pense que un certain nombre de véhicules qui se lancent vont peut-être arriver un peu après la bataille. Alors ça veut pas dire que ça sera une mauvaise période d'investissement, mais en tout cas, cette période bénie qu'on a connue entre l'été 2022 et on va dire fin d'année 2024, elle semble quand même plutôt derrière nous que devant nous.
Donc les bonnes affaires, c'était avant. J'aimerais qu'on revienne sur ces pays nouvelles, justement. Certaines ont choisi, comme vous, le modèle sans droit d'entrée, mais finalement, elles sont assez minoritaires. Est-ce que ce modèle, pas de frais de souscription, a réellement un avenir? Je sais qu'il y a un gros débat sur le sujet entre vous et d'autres acteurs.
Bien sûr. Mais bon. Moi, j'en suis absolument convaincu. Si c'est mon quart d'heure fair play, je suis également convaincu que la question des frais n'est pas le seul élément déterminant à la qualité d'une SCPI. Vous pouvez avoir une SCPI qui est très bien gérée, qui présente, comme le modèle historique, des frais de souscription d'à peu près 10%. La réalité de notre choix et de quelques autres gestionnaires, c'est que on trouve pertinent et juste pour l'épargnant, pour un éventuel distributeur, pour la société de gestion, d'aligner les intérêts de tout le monde et d'être rémunéré sur notre capacité à faire notre métier. C'est vrai qu'historiquement, la SCPI, c'est un peu le dernier mohican dans cette structuration de frais, c'est que vous êtes en tant que gestionnaire des CPI, incentivé à collecter de l'argent. Et même si vous achetez pas de l'immobilier, bah, vous avez gagné 10% de frais de souscription. Et là, tout le sens de l'absence de frais de souscription et donc de mettre une commission d'acquisition et des commissions de gestion légèrement plus élevées, c'est de nous rémunérer pour notre travail et pour la performance qu'on va créer pour l'investisseur.
Donc, ça permettrait d'éviter de collecter, d'investir systématiquement une collecte et donc de cet effet relutif que certains recherchent uniquement.
Bah, j'ai envie de dire que les deux années qui se sont passées vont un peu dans le sens de ce que je vous raconte. C'est-à-dire que, les chocs de liquidité qu'on a vus sur certains véhicules prouvent que c'est pas les frais de souscription qui retiennent le client, et fort heureusement. Et donc, effectivement, ça va dans le sens de notre SCPI et de sa structuration de frais.
Alors justement, on va parler de cette SCPI Hirokozen. On vient de le dire, on le sait, la collecte aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Hirokozen continue de collecter, elle fait partie de celles qui collectent le plus, 130 millions au premier semestre 2024, je crois. Mais en fait, rapportée à sa capitalisation, elle collecte moins qu'au cours des exercices précédents. Quelles sont vos perspectives de collecte pour 2025 dans un environnement, on l'a dit, déprimé et de plus en plus concurrentiel?
Ouais. Alors effectivement, si je remonte un peu la pelote, le marché de la SCPI s'est largement comprimé, puisque 2022, c'était l'année... Non, pardon, 2022, oui, c'était l'année... Non, 2021, c'était l'année star, pardon, où la SCPI avait collecté 10 milliards, voire 11 milliards. Oui, c'est ça, c'était 2022. 2023, on était descendu à 5 milliards d'euros net, j'insiste sur le net. Et les perspectives pour 2024 devraient être entre 2,5 et 3,5 milliards. Pour autant, alors sur la collecte d'Hirokozen, effectivement en 2023, elle était de 250 millions d'euros nets, ce qui nous a placé dans enfin top 2 de la collecte derrière un acteur bien connu. Pour le premier semestre 2024, nous sommes à 165 millions d'euros nets. Pour le T3 2024, on est à 85 millions, ce qui nous projette à plus de 300 millions d'euros de collecte sur l'année 2024, et donc une meilleure performance
mieux que les années précédentes.
Que 2023. C'est une collecte qui est au final la même que celle des pure players avant crise. En fait, le marché, il s'est cassé en deux. Vous avez d'un côté une dizaine de SCPI adolescentes, on va dire, ou jeunes,
oui, on est plus jeunes
qui trustent effectivement l'essentiel de la collecte et qui ont des niveaux de collecte qui sont les mêmes que les, encore une fois, les meilleurs collecteurs d'avant. Et vous avez tout un pan du marché qui est constitué des grosses capitalisations historiquement, qui celui-ci est complètement atone et en décroissance. Et donc on a le sentiment qu'au final le marché s'essouffle, alors qu'en réalité
il se concentre.
Il se concentre.
D'accord. Rapidement, puisque vous collectez, vous investissez. Un mot sur les derniers investissements, ou dans quel secteur et avec quel rendement?
Oui. Alors. Nous, et c'était le sens de l'histoire post-crise sanitaire, puisqu'on a lancé la SCPI Hirokozen pendant la crise sanitaire, c'était de se dire que pour avoir un bon portefeuille, c'est un peu le béaba de l'épargnant, il faut qu'il soit ultra diversifié. Et donc aujourd'hui, ma réponse, ça va être un peu une réponse de Gascon, c'est que il faut ne pas avoir de dogme, et il faut être agile et opportuniste, peu importe le pays dans lequel on investit et le secteur d'activité. C'est-à-dire que contre-intuitivement, aujourd'hui, si j'ai de l'argent à placer, je vais plutôt aller vers du bureau en France, ce qui est fou, alors que c'est pas du tout ce qu'on a l'impression. C'est pas la demande aujourd'hui. C'est-à-dire
parce que le rendement est plus élevé, c'est ça?
Le rendement est plus élevé, et ensuite le bureau n'est clairement pas mort. Il y a un changement d'usage qui est conjoncturel bien au-delà de la crise qu'on a connue ces deux dernières années. Effectivement, sur le télétravail, encore on y revient, mais bref, on commence à avoir les contours définitifs de ce que sera le télétravail demain. Ce qui est certain, c'est que le bureau a changé, c'est-à-dire que les 15 000 mètres carrés de bureau dans le nord de Paris n'ont plus de sens, et aujourd'hui on veut un bureau bien placé qui répond à une tendance.
Est-ce que vous en achetez?
Bah non, la réponse est évidemment bien.
Donc vous achetez d'autres types d'autres secteurs, mais dans quel pays?
Alors on achète du bureau, néanmoins je donnerai des exemples par la suite, et sinon on achète indifféremment en commerce. Ça c'est un secteur d'activité qu'on a toujours apprécié, avec un focus notamment sur supermarché, outillage. On achète pas mal de logistique, locaux d'activité, entrepôts, et une petite activité santé, éducation, même si les prix sont encore un peu chers.
Et les taux de rendement à l'acquisition, c'est de quel ordre?
Et les taux de rendement à l'acquisition, ça c'est la magie du marché, on les a très largement augmentés depuis le lancement de la SCPI, puisque fin 2021, donc c'était la première année, premier exercice d'Hirokozen, on était à un rendement acte en main de notre portefeuille autour des 6-10. Et aujourd'hui, fin d'année, on devrait tourner à 7-50. On achète globalement entre 8,30 et 8,50 aujourd'hui en 2024 nos actifs.
Donc question suivante est très rapide pour la réponse. Performance prévisionnelle 2024.
Oui. Alors après avoir fait plus de 7% ces trois dernières années au-delà de notre objectif non garanti de 5,50, pour l'instant on est sur un trend évidemment non garanti à long terme mais de 7,20 et on devrait être encore une fois dans cette fourchette 6,75, 7,5 évidemment non garanti.
Alors j'ai une question sur votre positionnement. Iroko, je l'ai dit, c'est un gestionnaire un peu particulier puisqu'il y a ce tropisme fintech et puis surtout cette ambition affichée au départ de prendre pied sur d'autres marchés de l'épargne, y compris la distribution. Et on sait qu'aujourd'hui, justement, la distribution devient de plus en plus importante, en tout cas pour les gestionnaires d'actifs de SCPI. Or, des rumeurs prétendent que Iroko est à vendre. Donc, qu'en est-il exactement ?
Alors, vous avez quasiment répondu au final à la question. Donc, Iroko est ambitieuse. Effectivement, on a lancé en novembre 2020 notre premier fonds Iroko Zen. Depuis, on a lancé une SCI qui s'appelle Iroko Next et qui a des performances bien au-delà de son bench. On a lancé également un fonds à impact qui s'appelle Iroko Impact. Tout ça pour dire qu'on est très ambitieux, ne serait-ce que sur notre matière première, c'est-à-dire l'immobilier. Aujourd'hui, Iroko, c'est une société de gestion qui a 60 collaborateurs, qui va, d'ici la fin de l'année, gérer 1 milliard d'euros d'AUM. Donc, on a beaucoup grossi et on a, encore une fois, beaucoup d'ambition sur l'épargne au sens large. On ne s'interdit rien. On regarde beaucoup de choses. On travaille aujourd'hui avec